la parole de Dieu. C'est vrai, il y avait déjà la parole de Dieu qui ont été annoncées, ici et là, lues. Et là, nous allons nous concentrer sur la prédication. Alors, pour introduire cette prédication, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà expérimenté d'avoir perdu votre chemin? Et tout à coup, une personne se présente à vous avec la bonne surprise. Elle connaît très bien les lieux où vous vous trouvez. Vous avez déjà expérimenté ça, non? Et mieux encore, cette personne se propose de vous conduire là où vous voulez vous rendre. Et là, quel soulagement, quelle joie, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, nous avons besoin d'être conduits par Dieu dans notre marche ici-bas. Mais comment savoir dans quelle direction Dieu nous conduit? Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Quel bonheur d'être conduit par l'Esprit de Dieu ». Quel bonheur d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 17. Romains, chapitre 8, versets 1 à 17. Et je vais vous demander de vous lever, on va se lever pour lire la parole de Dieu, honorer cette parole de vérité et de vie. Que Dieu nous délivre de sa bouche. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite encore à la prière. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant qui parle et qui agit. Et nous avons, Seigneur, soif de t'entendre, soif de te voir agir puissamment dans nos vies. Nous te demandons de disposer le cœur de chacun de nous, non seulement pour recevoir, mais aussi pour mettre en pratique ce que tu nous donnes, afin que par nos vies, ton nom soit honoré et glorifié. Amen. Amen, vous pouvez prendre place. Vous êtes prêts? Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points soulignant la merveilleuse manière comment Dieu nous conduit dans la vie. Le premier point, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Deuxième point, le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et dans la vie. Et le troisième point que nous allons voir tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit est notre GPS et la Bible notre carte routière. Abordons tout de suite le premier point. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Notre texte nous parle d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous avons cela dans Romains chapitre 8, verset 14. Mais que signifie être conduit par l'Esprit? Comment l'Esprit de Dieu s'y prend-il pour nous conduire? Comment être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et non pas notre imagination ou notre convoitise trompeuse? Vous êtes d'accord avec moi quand je dis qu'il y a des chrétiens qui croient que l'Esprit de Dieu les conduit à changer d'emploi, à déménager ou même à divorcer? D'autres sont persuadés que l'Esprit les conduit à dire telle parole à une personne particulière. Une fois, un homme était convaincu que l'Esprit de Dieu le conduisait à devenir pasteur. Finalement, les choses ont tourné autrement. Et cet homme a même quitté l'Église et abandonné la foi. Alors nous nous posons la question, est-ce que l'Esprit de Dieu se trompe-t-il ? Non, le Saint-Esprit est Dieu et Dieu ne fait jamais d'erreur. Mais nous devons faire attention quand nous disons autour de nous que nous sommes conduits par l'Esprit. En même temps, la parole de Dieu nous assure bel et bien que nous sommes réellement conduits par le Saint-Esprit. Quelle belle réalité! Quelle belle réalité riche et profonde, n'est-ce pas? Alors, le premier point, qui sont conduits par le Saint-Esprit? Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit du Dieu Très-Haut. C'est le privilège des fils de Dieu. Paul nous dit dans notre texte, dans Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien sûr, quand Paul parle ici de fils de Dieu, il inclut également les filles de Dieu. Hommes chrétiens, femmes chrétiennes, garçons, filles chrétiens, tous sont conduits par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas réjouissant et rassurant? Certains s'imaginent que l'Esprit conduit seulement une certaine catégorie de chrétiens. Il y aurait seulement un groupe de personnes qui recevraient ce privilège. Les pasteurs, les anciens, les diacres, ou certains chrétiens plus privilégiés que les autres qui recevraient des révélations particulières ou que Dieu protégerait d'une manière exceptionnelle. Et on entend parfois des histoires remarquables de croyants avertis miraculeusement, protégés par des anges ou inspirés de façon spéciale. Gloire à Dieu! Mais l'apôtre Paul nous parle ici, c'est pas de cela. Dieu a bien sûr la liberté de diriger ses enfants d'une manière exceptionnelle. Et on peut dire amen à cela. Mais ce que la Bible appelle par être conduit par l'Esprit, c'est une œuvre accomplie en faveur de tous les enfants de Dieu, sans exception. Romains chapitre 8 établit un contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit. Vivre selon la chair et vivre selon l'Esprit. Et dans le Nouveau Testament, chaque fois que nous trouvons le verbe marcher, on parle de style de vie ou une conduite. Ce chapitre 8 de Romains souligne les privilèges et les responsabilités de tout enfant de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous avons alors reçu l'Esprit de Dieu qui nous pousse à crier « Abba, Père !» Et par la suite, nous sommes appelés tous à marcher par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. C'est un état que Paul affirme ici. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit. C'est une œuvre tout à fait remarquable. Nous avons peut-être besoin de mieux comprendre comment il nous conduit. Mais ce privilège nous appartient. C'est le premier point. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, demandez-vous alors si vous êtes vraiment enfant de Dieu. Alors, cher ami, j'aimerais te poser cette question ce matin. As-tu déjà reçu l'Esprit de Dieu? Peut-être parmi nous ce matin, il y en a ceux qui se posent la question, qui se demandent, comment pourrais-je recevoir l'Esprit de Dieu? Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Cher ami, si tel est ton cas, ce matin, tu es là, tu es présent, tu n'as pas encore l'assurance d'être enfant de Dieu, alors la Bible te dit clairement, tu as besoin d'être né de nouveau. Et tu peux l'être en ce moment même. Tu peux venir à Jésus et lui dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Et je te donne ma vie et conduis-moi par ton Esprit à partir de ce moment. » Le premier point, ce sont les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et ce sont les enfants de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ce qui nous amène au deuxième point de notre message. Le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et dans la vie. Le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et dans la vie. Certains pensent qu'être conduit par l'Esprit est quelque chose de très mystérieux, impossible à connaître et même inutile d'essayer de comprendre. D'autres pensent que cela signifie recevoir une révélation spéciale ou une intuition céleste. Ils pensent que pendant la journée, l'Esprit leur dit de faire ceci, l'Esprit leur dit ensuite de faire cela, comme s'ils étaient en dialogue continuel avec l'Esprit de Dieu, qui serait déconnecté de la parole de Dieu. Et d'autres pensent aussi que ce sont des fanatiques illuminés qui seraient conduits par l'Esprit et ils se disent qu'il ne faudrait surtout pas être conduit par l'Esprit pour éviter de tomber dans le fanatisme, les deux extrêmes. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par être conduit par l'Esprit? Dans cet épître de Paul aux Romains, chapitre 8, Paul nous parle de la sanctification. Nous devons comprendre alors par cela la différence entre révélation, providence et sanctification. La Bible nous parle de révélation. La révélation, elle est complète. Et Dieu nous a déjà révélé tout, toute sa volonté, tout son plan dans sa parole. Tout ce qu'il nous faut pour vivre notre, pour avoir notre salut et pour vivre pour lui, pour être dans son service. Quand Dieu nous conduit par son esprit, Dieu n'ajoute rien à cette révélation qui s'appelle la Bible. Là, on a parlé de la révélation. La providence, alors c'est quoi la providence? C'est l'œuvre de Dieu qui conduit l'ensemble de sa création, incluant tous les événements de l'histoire et la vie de tous les êtres humains, chrétiens ou non. Je fais une petite pause ici. Quand nous regardons à la création, aux astres, à l'univers, quand nous pensons à cela, rien ne fait défaut. Tout est synchronisé, harmonisé par la providence divine. La main de Dieu conduit toute chose. Et quand nous réfléchissons à notre vie, dès notre naissance jusqu'à aujourd'hui et même plus tard, quand nous regardons en arrière, nous voyons comment Dieu conduit nos vies de manière miraculeuse. Nous ne pouvons jamais arriver à connaître Jésus-Christ sans une conduite merveilleuse, synchronisée de Dieu. Dieu nous envoie des personnes pour nous parler de son amour, de son pardon, pour nous dire que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, loin de Dieu. Et quand nous agenouillons pour accepter, reconnaître notre péché et reconnaître que Jésus seul sauve, qu'il est seul Seigneur, c'est par une conduite merveilleuse et miraculeuse de Dieu. Bien sûr, quand l'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu, cela inclut sa providence dans nos vies. Mais cette œuvre de l'Esprit est plus précisément l'œuvre de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies. Une œuvre limitée aux enfants de Dieu uniquement. Là, on a séparé la révélation, la providence et la sanctification. La révélation, Dieu se révèle dans la nature de manière générale, mais Dieu se révèle aussi à l'homme de manière particulière par sa parole. Dieu, dans sa souveraineté, il dirige le monde entier, chrétien ou non, dans sa souveraineté, dans sa sagesse infinie, dans son amour parfait. Mais Dieu veut que tous ses enfants marchent dans la sanctification. Et c'est là, Paul, il parle de cela, être conduit par l'Esprit. Dans son épître aux Romains, Paul explique d'abord que tous ont péché. Donc on voit cela, Romains chapitre 1 à 3. Ensuite, il parle de la justification, chapitre 3 et 4. Après, la sanctification, chapitre 5 à 8, la première partie, et ensuite la glorification, fin du chapitre 8. Et notre texte, Romains 8, 14, se situe dans la section sur la sanctification. Ayant été justifiés par la foi, nous sommes appelés à combattre le péché, à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais comment? Paul, il le dit si bien dans Romains chapitre 7 que nous sommes incapables par nous-mêmes. Nous dépendons entièrement du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 7, verset 19, Paul, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Et en Romains chapitre 8, Paul, il répond « Oui, mais le Saint-Esprit fait toute la différence. » Sur le chemin difficile de la sanctification, les enfants de Dieu ont le privilège d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Certains chrétiens désespèrent d'eux-mêmes quand ils constatent qu'ils font si peu de progrès après de nombreuses années de vie chrétienne. Et ça peut être moi. Moi aussi, j'étais parmi ces personnes-là. J'étais désespéré parce que après plusieurs années de vie chrétienne, je ne vois pas beaucoup de progrès dans ma vie. Rappelons-nous, chers amis, que l'Esprit de Dieu exerce en nous une action continue, efficace et profonde. Cette action de l'Esprit nous rend capables d'écraser de plus en plus la puissance du péché qui habite encore en nous. Elle nous permet de marcher de plus en plus librement et joyeusement sur le chemin de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Cette action n'est pas sporadique, les amis, de temps à autre, pour des occasions spéciales ou seulement lors de prises de décisions importantes. Elle est continuelle, quotidienne, permanente. Le verbe ici est au présent continu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, continuellement conduits par l'Esprit. Heureusement que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Sinon, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Parce que par nature, nous irons toujours dans la direction que veut notre nature corrompue, opposée à la direction de Dieu. Si nous revenons au verset 7, Paul il dit « Car les tendances, les aspirations de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Si nous étions laissés à nous-mêmes, si l'Esprit de Dieu ne nous conduisait pas, nous choisirons toujours le chemin contre Dieu et pour le péché. Nous ne choisirons jamais la sainteté. Nous qui sommes parents ou grands-parents, nous savons très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de montrer à nos enfants ou à nos petits-enfants comment pécher, comment désobéir, comment mentir, comment être égoïste, comment bousculer son frère ou sa sœur. Ça vient tout seul. Par contre, nous avons besoin de leur montrer comment prier, comment être à l'écoute de la parole de Dieu, comment mettre sa confiance en Jésus-Christ, comment vivre dans l'obéissance à sa parole, comment être gentil, comment être patient, obéissant, doux, généreux, fidèle, maître de soi. Dans chacun de nous, il y a une résistance à faire la volonté de Dieu. Une résistance à prier, une résistance à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Mais il n'y a pas de résistance à pécher. Et cela, ça ne s'améliore pas avec l'âge, malheureusement. Devenus adultes, nous sommes peut-être capables de mieux camoufler nos péchés, mais laissés à nous-mêmes, nous allons toujours empirer en vieillissant. L'homme naturel n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à faire cette œuvre de sanctification en nous, il opère une transformation profonde. Il nous régénère. C'est le début de cette œuvre magnifique. L'Esprit commence à nous conduire. Il continue de le faire toute notre vie. Cette œuvre profonde de l'Esprit nous permet de prier notre Père et de nous confier dans ses promesses en Jésus-Christ. Quand l'Esprit nous conduit, il ne fait pas seulement nous montrer la direction. Imaginez un homme aveugle et paralysé et qui fait de la randonnée dans les montagnes rocheuses. Le guide aura beau lui montrer la direction, mais ce n'est pas suffisant. Par nature, les amis, nous sommes aveugles et paralysés sur une route impossible à suivre par nous-mêmes. Mais quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il éclaire notre cœur, il guérit nos pieds, il guide nos pas, il soutient notre marche. Bref, il exerce en nous un contrôle parfait. Et dans Romains chapitre 8, verset 9, nous lisons « Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Cette emprise permet à l'Esprit de nous conduire en toute sécurité jusqu'à la destination. On peut dire amen à cela. Remarquez bien que cette action du Saint-Esprit ne nous rend pas passifs. elle n'annule pas notre responsabilité. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, cela ne veut pas dire que nous sommes assis sur le siège du passager, je sais bien de quoi je parle, à dormir ou à contempler passivement le paysage jusqu'à ce que le voyage soit terminé. Pas du tout, les amis. Paul nous dit au verset 4 de marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est nous qui marchons. C'est nous qui mettons à mort le péché qui reste encore en nous. C'est nous qui avons les pensées de l'Esprit. C'est nous qui vivons par l'Esprit. Soyons-en convaincus, les amis. L'Esprit de Dieu conduit infailliblement tous les enfants de Dieu sur la route de la sanctification, sans jamais faire d'erreur. En même temps, c'est nous qui regardons où il faut marcher. C'est nous qui avançons faiblement nos pieds, qui trébuchons parfois. Ce sont nos jambes et nos muscles qui s'activent, mais qui deviennent aussi fatigués parfois. C'est notre cœur qui manque souvent de courage pour nous relever et continuer. Mais par la puissance de l'Esprit, recommençons le combat. Recommençons la route. Contre notre vieille nature, nous recevons un courage nouveau, une vigueur nouvelle. Cela nous permet de persévérer par l'action continuelle, puissante et profonde du Saint-Esprit. Être conduit par l'Esprit, on a vu tout à l'heure, c'est un privilège incomparable qui appartient aux enfants de Dieu. Comme c'est beau, comme c'est encourageant. La Bible nous dit que Dieu nous sauve par le moyen de la foi seule. Et il nous conduit dans la marche de sanctification par le même moyen. Si nous lisons Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, alors ça c'est la recommandation donnée aux enfants de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes ses voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Et le psalmiste, il fait aussi cette prière, il demande ardemment à Dieu, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » On vient de le chanter. « Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, Seigneur, car tu es le Dieu de mon salut, et moi, je m'attends à toi. » Parfois ? Non, chaque jour. Psaume 25, versets 4 et 5. Et le prophète Ésaïe, il nous dit que quand nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, il se révèle à nous. Et il dit, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite, ou quand vous irez à gauche. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement une voix audible, mais Dieu nous parle par son esprit, par sa parole. Et Dieu nous amène une intelligence renouvelée. Et Dieu nous conduit dans cette marche de sanctification. Et il nous dit, ça, c'est la voie. Marche dans cette voie, mon enfant. Cher ami, comment est ta marche dans la sanctification en ce moment? Peut-être que tu es en train de lutter contre un péché précis depuis un certain temps. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Mais si par l'Esprit tu fais mourir les actions du corps, tu vivras. Il y a de l'espoir pour nous, chers amis. Alors, je t'encourage ce matin à te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donne-lui les contrôles de ta vie, mon ami. Ensuite, lève-toi et marche avec le Dieu vivant qui ne te délaisse pas et qui ne t'abandonne pas. Nous avons vu au premier point de cette prédication que ce sont les enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous venons de voir que le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et dans la vie. Ce qui nous amène au troisième et dernier point de notre message de ce jour. Le Saint-Esprit est notre GPS et la Bible, notre carte routière. Les deux vont ensemble. L'Esprit de Dieu nous conduit au moyen de la parole de Dieu. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si nous sommes enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, nous aurons le grand désir d'être conduits par la parole de Dieu, les amis. Nous chercherons à vivre selon sa parole, même si cette parole s'oppose à nos désirs qui sont portés à péché. Cette parole sera au cœur de notre vie, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée. L'Esprit agit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible, chers amis, est notre carte routière que nous devons consulter régulièrement durant notre voyage. Aujourd'hui, il n'y a plus grand personne qui utilise les cartes routières. Mais la Bible, elle demeure actuelle pour tous les âges, pour toutes les générations. Le Saint-Esprit prend cette parole pour éclairer notre intelligence. Quand Paul nous dit « Soyez transformés, renouvelés dans votre intelligence », c'est cette parole qui transforme notre cœur, qui dirige nos pieds, qui nous fortifie dans notre marche sur la route de la sanctification. Le Saint-Esprit, il est là toujours pour nous diriger. Quand nous péchons, quand nous résistons, quand nous prenons une direction autre, l'Esprit nous ramène à la repentance et nous conduit dans la bonne direction. L'Esprit nous ramène à la parole de Dieu. Il nous ramène à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix. L'Esprit nous conduit aussi par la prédication de cette parole. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi quand moi je prépare cette prédication, c'est moi qui suis conduit, premièrement. Paul nous dit, comment entendront-ils parler de lui, de Dieu, son prédicateur ? Romains chapitre 10, verset 14. Quand Dieu transmet sa parole par un prédicateur fidèle, l'Esprit de Dieu accomplit son œuvre dans le cœur de ceux qui l'écoutent. De cette manière, l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu nous réconforte avec les promesses de l'Évangile, nous exhorte, nous corrige, nous guide. Voilà comment l'Esprit nous conduit. Il est donc très important d'écouter attentivement la prédication de la parole de Dieu et de ne pas résister à l'Esprit qui nous conduit par sa parole. Il nous faut aussi prier pour que nous puissions garder cette parole de Dieu dans notre cœur et que cette parole continue de nous transformer quotidiennement. En fait, on n'a pas le temps pour décortiquer ce passage merveilleux. Mais Paul nous dit encore là que l'Esprit nous conduit vers la gloire à venir. Nous avons déjà, les amis, dès aujourd'hui, un avant-goût de cette gloire de Dieu. Déjà, nous vivons par l'Esprit. Comme Paul le dit au verset 5 et au verset 13, il ajoute « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez ». Il y a là une promesse. Si nous marchons par l'Esprit, si nous faisons mourir de plus en plus le péché, nous vivrons. Ceux qui sont conduits par l'Esprit vivent une vie transformée jour après jour. Mais avez-vous remarqué le contraire de cette promesse? Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais Paul ne parle pas ici de la mort physique, ni de la mort spirituelle. Il ne parle pas non plus de la perte du salut. Parce qu'au verset 1 de Romains 8, il nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il dit plutôt que la personne dont la vie se caractérise par les choses de la chair n'est pas véritablement chrétienne et est spirituellement morte, quelles que soient ses affiliations et ses activités religieuses ou morales. Si elle ne vient pas à Christ, la source de vie, par une foi sincère, elle mourra d'une seconde mort sous le jugement final de Dieu. Mais Paul, il revient ensuite sur la raison pour laquelle les chrétiens véritables ne sont plus dans l'obligation d'obéir à péché. Ils ne sont plus captifs du pouvoir du péché et ils ne sont plus sous la condamnation que ce péché entraîne. Si le chrétien a une obligation à remplir, ce n'est plus par rapport à la chair, mais par rapport à l'esprit. Nous ne possédons pas en nous-mêmes les ressources nécessaires pour vivre dans la sanctification, mais nous possédons les ressources du Saint-Esprit, les ressources de l'Esprit du Dieu vivant qui nous permettent de résister et de faire mourir les actions du corps. Faire mourir les actions du corps, c'est cela qui caractérise les enfants de Dieu. Quelqu'un disait, c'est un théologien écossais qui s'appelle David Brown, il dit, si vous ne tuez pas le péché, c'est lui qui vous tuera. Et cela revient à ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit dans Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Mes amis, il n'y a pas de mesure trop draconienne pour marcher dans la sanctification. C'est une responsabilité de tous les enfants de Dieu. Alors maintenant, on se pose la question, comment faire mourir les actions du corps? La Bible nous offre une panoplie d'aides pour nous aider dans ce sens. Je vais juste relever quelques points ici. Premièrement, reconnaître le péché. Le psalmiste, il dit dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Se laisser sonder par Dieu et par son esprit, se laisser sonder par la parole de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. Et reconnaître par la suite devant cette parole vivante et dire, oui, ça, c'est bien moi dont on parle ici. Je suis pécheur, j'ai manqué à la cible, j'ai raté la cible. Toi, tu es vrai, ta parole est vraie, et moi, je suis dans le faux. Je reconnais, pardonne-moi, Seigneur, et je change de direction. Comment faire mourir les actions du corps? Garder le cœur attaché à Dieu. Garder le cœur attaché à Dieu. C'est toujours le psalmiste qui nous dit, que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors, je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Et aussi dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il nous est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez le cœur attaché à Dieu. Mais je répète ici, nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, par nos faibles et pauvres moyens, mais Dieu le peut. Et il est là. Troisièmement, méditer la parole de Dieu. Toujours, psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ensuite, prier continuellement. C'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Dieu entend nos prières. Il écoute nos prières et il nous exauce en Jésus-Christ quant à cette marche dans la sanctification. Et cinquième point, mettre en pratique l'obéissance à Dieu, marcher dans l'obéissance à Dieu et porter quotidiennement sa croix. Si nous lisons Galates chapitre 5, versets 16 et 17, Paul nous dit, « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraints à l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à la chair. » Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est notre responsabilité de garder le moi orgueilleux, qui résiste à la volonté de Dieu. Gardez ce moi cloué sur la croix. C'est ma responsabilité. Que ce moi-là reste cloué. Mais que l'Esprit de Dieu continue à faire grandir son œuvre au fond de moi. Et que la parole de Dieu demeure en moi dans toute sa richesse. Colossiens chapitre 3, verset 16. Oui, chers amis, ceux qui sont conduits par l'Esprit n'ont pas toujours des chemins faciles. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les versets suivants, Paul nous rappelle les souffrances du temps présent avant la gloire à venir. Les souffrances de la création et les souffrances des enfants de Dieu. Si vous avez des épreuves, des problèmes, des souffrances. Ne pensez surtout pas que l'Esprit de Dieu a cessé de vous conduire ou qu'il s'est trompé de chemin, les amis. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur, car il est Dieu. Même dans les épreuves, les souffrances, les maladies, les adversités, l'Esprit de Dieu continue de nous donner la lumière dont nous avons besoin dans nos cœurs. La force nécessaire pour combattre le péché, la vigueur pour progresser sur la route de la sanctification. À travers le chemin de la souffrance, souvent, Dieu nous conduit infailliblement à la gloire éternelle. Et pour conclure, je voudrais juste revenir aux trois points de notre message d'aujourd'hui. Vous vous souvenez? Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alors, les amis, réjouissons-nous d'être conduits par l'Esprit de Dieu, qui est notre GPS, guide par le Saint-Esprit. Soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit du Dieu vivant. Deuxième point, le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et dans la vie. Les amis, avançons par la foi dans ce chemin étroit, difficile de la sanctification, car Dieu est avec nous, c'est lui qui nous y conduit. Et troisième point, le Saint-Esprit est notre GPS et la Bible notre carte routière. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le GPS, parfois, il y a bug de connexion. Mais la carte routière, ça fonctionne partout. La direction vers notre demeure éternelle nous est déjà donnée. La force nécessaire pour y parvenir, pareil, Dieu nous a déjà donné. Dieu a pourvu à tout cela. Alors, allons-y, les amis. La Bible et le Saint-Esprit sont les deux guides les plus sûrs et fiables que Dieu nous a donnés pour nous accompagner dans notre marche ici-bas. Remercions-le de ce privilège admirable qui est donné à tous les enfants de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, pour ta parole qui est source de vie. Merci parce que tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes, mais tu nous donnes les moyens de marcher dans ce chemin étroit et difficile. Et nous avons une ferme assurance que tu es avec nous. Moi, je prie, Seigneur, pour celles et ceux qui peut-être hésitent encore, qui n'ont pas l'assurance de t'appartenir. Seigneur, œuvre dans leur cœur. Œuvre puissamment pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et gloire, honneur te soit rendu. Amen.